L'homélie de ce week-end vous est présentée par le père Bertrand Cormier, curé de la Bastide Murat.
De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres. Il placera les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu ? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri ? Tu avais soif et nous t'avons donné à boire ? Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli ? Tu étais nu et nous t'avons habillé ? Tu étais malade ou en prison ? Quand sommes-nous venus jusqu'à toi ?» Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, maudits dans le feu éternel préparé pour le démon et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim et soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service ?» Il leur répondra, « Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces petits, à moi non plus vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci, au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. La fête du Christ roi a été instituée en 1925 par le pape Pie XI dans un but de pédagogie spirituelle. Devant les progrès de l'athéisme et de la sécularisation de la société, il voulait affirmer la souveraine autorité du Christ sur les hommes et sur les institutions. Certains textes de l'office laissent transparaître un dernier rêve de chrétienté. En 1970, on a voulu mettre davantage en lumière le caractère cosmique et eschatologique de la royauté du Christ. La fête est devenue celle du Christ, roi de l'univers, et elle a été fixée au dernier dimanche de l'année liturgique. Avec elle, on voit poindre le temps de l'Avent, dimanche suivant, dans la perspective de la venue du Seigneur en gloire, en pleine lumière. La transformation de la seconde partie de la collecte, de la première prière liturgique, révèle clairement le changement intervenu dans le thème de la fête. L'oraison de 1925 priait Dieu d'accorder à toutes les familles des peuples désunis par la blessure du péché d'obéir à la douce autorité du règne du Christ. Le texte modifié demande à Dieu de faire que toute la création, libérée de la servitude, reconnaisse sa puissance et le glorifie sans fin. Nos démocraties modernes ont relégué le rôle des grandes familles royales au rang de signe de l'unité d'un pays quand elles ne les ont pas carrément éloignées du pouvoir. Alors, présenter un Christ roi aujourd'hui n'aide pas forcément à entrer dans le mystère d'un pouvoir divin sur toute la création, sur toute créature, tel l'artiste sur son œuvre. Vision totale de la création et pas simplement de l'humanité. Œuvre qui est en l'occurrence vivante quand il s'agit de la création dont le Père est le Créateur avec le Fils et l'Esprit, comme nous disent les Pères de l'Église. Cela peut, certes, nous déstabiliser de voir un roi de l'univers dont les sujets ne sont pas seulement des humains, mais dans notre contexte d'écologie généralisée, on peut se laisser être enrichi de cette nouvelle conception de la royauté du Christ. Royauté au sens de pouvoir exercé au-dessus de tous les pouvoirs. En effet, tous les responsables au niveau mondial n'auront jamais un tel pouvoir. Seul le Christ le détient, au point de pouvoir rassembler toutes les nations. Oui, le Fils de l'homme, c'est lui, ce personnage quelque peu énigmatique qui désigne Jésus à la fin des temps. Car si nous sommes à la fin de l'année liturgique, c'est pour signifier la fin des temps. La science le confirme bien, même si ce ne sera pas pour tout de suite. Mais l'Évangile nous invite à ne pas gâcher ce temps, car notre foi chrétienne nous dit que nous ne sommes pas sur terre pour profiter de la terre seulement, mais pour inaugurer notre vie éternelle, cette part qui revient à chaque créature. Le Fils de l'homme, avec un grand H, c'est le frère de tous les hommes. Fils de l'homme, de tout homme, de toute la création, il en devient le frère par son humanité. Humanité qu'il a épousée en naissant du sein de Marie. Humanité qu'il a épousée aussi en souffrant et mourant, comme tout un chacun. Mais alors il devient universel, puisqu'il est aussi fils de Dieu et de sa nature donc. Double nature pour être roi de l'univers, créé par son Père, avec lui et l'Esprit Saint. Dans cette nouvelle parabole bien connue, il semblerait que l'évangéliste Matthieu veuille s'adresser aux chrétiens, et non pas aux non-chrétiens, qui n'ont donc pas encore connu le Christ à l'époque où il écrit son évangile. Il veut s'adresser à ces chrétiens qui penseraient qu'il suffit de prier et de croire sans agir réellement. Paradoxalement, aujourd'hui, ce texte est souvent choisi par les familles lors des sépultures. Il aide bien lorsque le défunt n'était pas un pilier d'église, mais dont la vie a témoigné d'un amour plus grand que lui. Mais si ce texte s'adresse aux priorités aux chrétiens, il concerne toutes les nations, c'est-à-dire aussi bien les juifs que les païens à l'époque. Facile de le transposer à notre monde d'aujourd'hui avec une plus grande multiplicité d'expressions religieuses ou anti-religieuses, de par le nombre croissant d'habitants sur Terre, mais aussi de par une plus grande liberté de ces expressions. Saint Matthieu applique à ce Fils de l'homme, et donc à Jésus, ce qu'on applique traditionnellement à Dieu dans l'Ancien Testament. En Palestine, brebis et chèvres paissaient ensemble, mais le soir, le berger les séparait pour mettre ces dernières en un endroit plus abrité. Le tri proposé dans cette parabole touche alors les membres de l'Église, entre les bons à droite et les mauvais à gauche. Ceux qui seront à sa droite seront invités au désintéressement. En effet, quand on aime, on ne calcule pas, disait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. On ne cherche pas à mesurer les effets de notre action. Il s'agit de l'amour divin en nous et non pas de nos amours humaines, aussi belles soient-elles. Il s'agit d'un véritable renversement, d'une transformation profonde de ces amours en Jésus-Christ. Après lui, rien ne sera pareil pour ceux qui auront été touchés par le message évangélique. Mais attention, il ne suffit pas d'avoir été touché, il faut que cela change en nous réellement. En effet, s'il s'agit véritablement de la parole de Dieu, si Jésus est véritablement le Verbe fait chair, c'est notre foi, sa parole devient chair, elle doit le devenir en nous, sa parole dans nos actes. Alors, nous n'aurons plus peur du jugement. Sans doute devons-nous craindre plus le jugement des hommes que celui de Dieu. Même si ce dernier est intransigeant, il est avant tout miséricordieux. Nous ne pouvons pas alors mettre au même niveau béni et maudit, et faire confiance à ce jugement, puisqu'il nous échappe. Dieu ne maudit pas, ce n'est pas possible, car il se maudirait lui-même, non. Mais le jugement de notre conscience limitée, oui. Alors entendons l'appel du Christ, bénissez ceux qui vous persécutent, et vous serez les fils du Très-Haut.